Émission Entre les âges.
Bienvenue à l'émission Entre les âges, émission de musique classique et de musique voisine, présentée par François-Xavier Poisat sous le prisme de l'intergénérationnalité. Aujourd'hui, alors c'est assez intergénérationnel puisque mon invité, Daryl Bachmann, est un jeune altiste, il est même très jeune. Et puis il vient aujourd'hui nous parler d'un festival qu'il est en train de lancer, une première édition. Ce festival, c'est les Schubertiades de Tonnay qui auront lieu du 11 au 13 juin avec plusieurs concerts à l'espace culturel du Bois des Arts à Tonnay à Genève. Daryl Bachmann, bonjour.
François-Xavier Poisat, bonjour.
Daryl Bachmann, j'ai dit que vous étiez altiste, alors c'est peut-être pas un des instruments que tout le monde peut visualiser comme ça naturellement. Est-ce que vous voulez présenter un peu votre instrument, l'alto? Est-ce que c'est simplement un violon un petit peu plus grand?
Oui, alors l'alto n'est pas seulement un instrument un peu plus grand que le violon, mais c'est aussi un instrument qui est dans la tessiture un peu plus grave, donc 5 notes en dessous. Et si je devais décrire la sonorité de l'alto, je dirais qu'elle est dans exactement le même registre que la voix de l'homme.
Ne dit-on pas que c'est le violoncelle qui a le registre le plus proche de la voix humaine? Pour vous, c'est l'alto?
Alors, on peut débattre évidemment très longtemps là-dessus, mais pour moi, l'alto, comme le disait le grand altiste russe Rudolf Barschai, l'alto, c'est la voix de l'homme.
Eh bien, voilà. Voilà une opinion arrêtée, hein, et on vous comprend bien. On a parlé de Schubertiade, hein, c'est ce que vous allez organiser dans quelques jours. Alors, qui dit Schubertiade, dit évidemment Schubert, et pour rentrer dans le vif du sujet, je nous propose d'écouter un extrait que vous avez choisi, Daryl Bachmann, un extrait du troisième mouvement Allegro Vivace de l'Octuor pour vent et cordes de Schubert. On écoute tout de suite. Thank you. C'était l'Octuor de Schubert, le troisième mouvement Allegro Vivace, joué par des interprètes qu'on ne présente plus, Guidon Kremer, Isabelle van Keulen, Tabea Zimmermann, David Geringas, Alois Posch, Edouard Brunner, Radovan Vlatkovic, Klaus Thunemann, du Schubert pour présenter les Schubertiades de Daryl Bachmann, organisées pour du 11 au 13 juin à l'espace culturel du Bois des Arts, les Schubertiades de Tonnet. Alors, un octuor, ça veut dire 8 musiciens, c'est ça? À partir de quand est-ce que un octuor devient, un ensemble devient une camerata ou un orchestre?
Oui, alors je pense qu'il faut bien dire quelque chose, c'est que tout d'abord, Schubert a composé cette octuor en s'inspirant du septuor de Beethoven, et donc c'est l'une des, voire, je pense, la toute première composition pour cette formation, donc quintette à cordes avec contrebasse, ainsi que au vent, cor, clarinette et basson. Donc c'est la toute première composition de l'histoire pour cette formation-là. Et je dirais que on reste dans une formation de musique de chambre et que c'est assez difficile de dire à partir de quand on est un orchestre, mais je pense que à partir du moment où on a juste un musicien par registre, donc un instrument par registre, un seul alto, un seul violoncelle, une seule contrebasse par exemple, on reste pour moi dans de la musique de chambre.
Alors Daryl Bachmann, j'imagine que cet octuor de Schubert, vous allez le jouer au Schubertiade.
Exactement, alors on va le jouer deux fois, donc le dimanche 13 juin, ce sera donc pour le concert, la journée finale du festival, on va donc l'interpréter deux fois. Et donc ces concerts seront composés uniquement de l'octuor de Schubert, et il y a une raison bien précise à cela, c'est que l'octuor dure à lui tout seul déjà une heure de musique, et c'est l'une des pièces de musique de chambre la plus longue qui existe.
Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une Schubertiade? Parce que vous n'êtes pas le seul à organiser une Schubertiade, il y a plusieurs festivals qui s'appellent les Schubertiades, notamment les Schubertiades d'Espace 2, par exemple. Qu'est-ce qui fait une Schubertiade? Il faut jouer l'octuor de Schubert, c'est ça?
Alors, pour faire une Schubertiade, il faut essayer de reproduire une ambiance qu'a produit Schubert durant sa vie. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que Schubert était un compositeur qui était dans l'ombre de Beethoven. Ses œuvres étaient que très rarement jouées. Et Schubert, donc, évidemment, composait et avait, comme tout compositeur, envie d'entendre ce que ça donnait. Donc, il invitait des amis dans son salon, dans son appartement à Vienne. Et des fois, il y avait juste 3, 4, 5 personnes, mais rarement plus d'une vingtaine. Et souvent, les gens qui étaient dans la salle et qui écoutaient, se levaient, jouaient une pièce, retournaient s'asseoir, un autre se levait, récitait un poème, un autre rejouait une pièce, Schubert présentait une de ses pièces qu'il faisait jouer par un de ses amis qui était dans l'audience, et Schubert disait lui-même, pour parler de cette atmosphère conviviale et très famille qu'il avait réussi à produire par un peu, je ne sais pas si on peut dire un concept, mais par cette idée-là, avait dit en rigolant, on peut appeler ça une Schubertiade. Et évidemment, il existe les Schubertiades d'Espace 2. Nous-mêmes allons faire un festival intitulé Schubertiades de Tonnet, mais il en existe des dizaines dans le monde, des Schubertiades. Mais c'est surtout l'idée de reproduire un cadre intime et familial qui nous est très cher.
Est-ce qu'on peut dire qu'à la base, la Schubertiade, c'était une espèce de jam session viennoise de l'époque, et qu'aujourd'hui, c'est devenu une espèce de religion mondiale à la gloire de Schubert?
Oui, alors moi, je pense personnellement que la musique de Schubert est tellement profonde et grande qu'on ne peut pas non plus boire un whisky et fumer un cigare en l'écoutant. Alors je pense à l'époque, très certainement qu'il le faisait, et puis que très souvent, ce genre de musique était joué dans des bars, mais il faut se remettre dans le contexte, c'était la musique qui était composée à l'époque et il fallait bien qu'il la produise quelque part et il n'y avait pas non plus toute la dimension de grandeur qu'on a maintenant donnée au classique. Mais voilà, je pense que les temps changent et peut-être qu'on reviendra à une forme de classique un peu plus
décontractée.
Voilà, décontractée. Merci pour le terme.
Est-ce que c'est ce que vous allez faire alors du 11 au 13 juin, une musique classique un peu plus décontractée, malgré que vous allez jouer des grands chefs-d'œuvre hein, comme cet octuor de Schubert?
Oui, alors ça va être dur d'être très décontracté. Tout d'abord, il y a les mesures du Covid qui vont nous empêcher de pouvoir nous réunir très longtemps avant, très longtemps après, de pouvoir organiser facilement, par exemple, un apéritif ou quelque chose comme ça. Mais pour nous, c'était le plus important, c'était déjà de proposer des concerts et de mettre en avant les jeunes artistes qu'on a chez nous et de relancer une certaine activité qui n'existait pas encore sur la commune de Tonnet.
Eh bien, ça fait très envie. Je nous propose une petite pause musicale avec un autre extrait que vous avez choisi, Daryl Bachman. Il s'agit du troisième mouvement du trio à cordes de Weinberg. On écoute tout de suite. C'était le troisième mouvement, opus 48, du trio à cordes de Weinberg. Un extrait choisi par Daryl Bachman, notre invité d'aujourd'hui, qui nous présente les Schubertiades de Tonnet qui auront lieu du 11 au 13 juin. Alors, on a beaucoup parlé de l'essence de ces Schubertiades. Est-ce que vous voulez nous parler maintenant du programme de ces quelques concerts? Il y a combien de concerts déjà?
Oui, alors, il y a trois programmes différents qui se joueront chacun deux fois. C'est-à-dire, le premier programme donc du vendredi soir, il y aura donc un sextuor de Brahms, un petit trio à cordes de Weinberg, dont vous avez entendu le final il y a quelques instants. Et ensuite de ça, on terminera le concert avec l'ouverture sur des thèmes juifs de Prokofiev. Donc ce programme sera joué deux fois le vendredi soir. Il sera et ensuite le samedi on va faire un concert famille. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir faire quelque chose d'accessible à tous et de sensibiliser les plus jeunes aux instruments et à la musique. Et donc on va jouer le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Il faut savoir que c'est aussi un petit clin d'œil au compositeur qui est mort il y a cette année 100 ans. Et donc ce programme se jouera deux fois l'après-midi, donc le samedi, et le dimanche, donc vous en pourrez entendre deux fois l'octuor de Schubert à 17h et à 20h.
Et les musiciens invités voulaient parler des interprètes, peut-être?
Oui, alors je pense que ce qu'il faut on a avant tout mettre en avant par rapport aux musiciens qu'on a choisis, c'est que la plupart d'entre eux sont genevois ou suisses romands ou même suisses. Et c'était vraiment important pour nous, surtout par les temps qui courent avec le Covid, voyez, de proposer donc des artistes locaux. Il y en a beaucoup en Suisse romande. La région regorge de grands talents, et pour nous, c'était important de leur donner une tribune à la hauteur de leur qualité de musicien et d'artiste.
Et peut-être encore un aspect sur le profil pour avoir parcouru le programme. J'ai l'impression que les musiciens sont tous assez jeunes, enfin comme vous êtes très jeune vous-même.
Ah bah oui, l'idée c'est donc de créer quelque chose de dynamique et de mettre en avant donc des jeunes qui sont en début de carrière. Certains ne sont même pas encore en HEM. La plupart sont dans des hautes écoles de musique et certains viennent d'en sortir. Donc pour nous c'était vraiment important de mettre en avant donc des jeunes talents locaux.
Après, on peut peut-être s'imaginer que quand un musicien organise son propre festival, c'est qu'il est déjà peut-être arrivé à un certain niveau de carrière, qu'il a déjà un certain âge, un grand réseau, etc. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, si jeune déjà, à lancer une première édition de festival?
Ah, bah alors pour moi, c'était un vœu qui m'était très cher et ça faisait très longtemps que j'y réfléchissais. Maintenant, il fallait que toutes les planètes s'alignent. Donc la première planète, c'était le Covid, qui m'a donné le temps d'y réfléchir plus intensément. Parce qu'évidemment, construire un projet comme ça prend énormément de temps. Et donc, j'avais donc ce temps à disposition. Ensuite, c'était de trouver un lieu qui était avec une bonne acoustique et qui était adéquat au projet qu'on recherchait. Donc, on avait trouvé tout d'abord l'église de Tonnet, l'église Saint-Pierre, qui est une merveilleuse petite église à l'acoustique charmante. Malheureusement, à cause du Covid, on ne pouvait pas mettre plus que 25 personnes dans l'église. Donc, on a dû déplacer dans la salle de concert qui est sous l'église et qui nous permettra, elle, d'accueillir 100 personnes à chaque concert. Et évidemment, moi j'avais envie aussi, c'était très important, de construire un projet sur ma commune d'enfance, donc Tonnet. Et évidemment, ce projet, je le construis pas tout seul. Je suis aussi accompagné par mon frère Damien Bachmann, qui lui est un habitué de la création d'événements et de programmation, puisqu'il s'occupe en partie du festival Pupplinche Classique avec un pianiste que vous connaissez peut-être, François-Xavier Poisat.
Et vous parlez beaucoup du Covid. Lancer une première édition de festival en plein Covid, est-ce que c'est par nécessité ou bien c'est par envie de se lancer des challenges, par goût de la difficulté?
Bon, alors, faut savoir une chose, c'est que la plupart des festivals en Suisse ne proposent plus, pardon, aux musiciens de venir jouer parce qu'ils ont assez peur du fait qu'il va falloir annuler quelque chose et organiser donc un événement pour finalement l'annuler. Donc donc pour être finalement très frustré. Et nous, on avait vraiment le sentiment que c'était le moment plus que jamais de proposer donc une activité culturelle à Tonnet. Et puis ouais, on a aussi le grand soutien de la commune de Tonnet qui était derrière nous du début à la fin, et qui nous a vraiment soutenus dans cette démarche, et qui assurait nos arrières en nous rassurant. Donc voilà.
Une des œuvres principales de la programmation des Schubertiades de Tonnet du 11 au 13 juin, c'est le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Hein. Vous avez dit que c'était l'anniversaire des 100 ans de sa mort. On écoute peut-être un des mouvements les plus célèbres de ce Carnaval des animaux, c'est l'aquarium qu'on retrouve dans pas mal de films d'ailleurs, hein, pour son aspect un peu fantastique comme ça. Et c'est l'orchestre de la radio de Saint-Pétersbourg qui l'interprète. On écoute tout de suite l'aquarium du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns.
Thank you.
c'était l'Aquarium du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns, compositeur dont on fête les 100 ans de la mort. Et ce Carnaval des Animaux, il aura lieu quand, Daryl Bachmann, organisateur du festival Les Schubertiades de Tonnay du 11 au 13 juin?
Alors, le Carnaval des Animaux aura lieu donc le 12 juin. Donc, il aura lieu deux fois. Et ce à, excusez-moi, 15h et 17h30. Voilà.
À l'espace culturel du Bois des Arts.
Voilà, et donc c'est un concert qui est particulièrement dédié aux familles, et donc si vous avez des enfants et que vous voulez leur montrer plusieurs instruments, leur faire découvrir un orchestre, vous êtes les bienvenus.
Et cette accessibilité, je crois qu'on l'a de la musique classique, hein, par le choix des œuvres qui sont vraiment des œuvres grand public, je crois que c'est plus ou moins un des fils conducteurs de votre programmation. Je crois que toutes les œuvres sont quand même très accessibles. Est-ce que vous avez l'intention vraiment de rendre ce festival le plus accessible possible?
Voilà, alors l'idée c'est d'en avoir pour tous les goûts. Donc au premier concert, il y aura du Brahms, du Weinberg. Donc le Weinberg, ce sera une petite découverte, et Prokofiev, donc la variation sur des thèmes juifs. Donc c'est une musique que tout le monde aura en tête et tout le monde gardera en mémoire parce qu'elle est très festive. Le deuxième concert donc, est dédié aux familles, comme j'ai dit, et l'Octuor de Schubert. Là, c'est un peu plus... donc, c'est plutôt pour les puristes, les grands fans de musique classique, car l'œuvre est assez lourde et dure une heure. Mais simplement, même si vous êtes curieux, je vous invite à venir. Je suis sûr que vous allez l'apprécier.
Lancer une première édition de festival, c'est pas rien, c'est quand même un énorme challenge, c'est quand même assez risqué, c'est beaucoup de travail. Quelle est votre motivation principale? Quel est le rêve qui vous porte à faire cette première édition en plein Covid, qui plus est?
Ah, bah nous, on avait besoin de se réunir, de voir du public, de refaire jouer des musiciens. C'est vrai qu'il y a il y a exactement 23 musiciens qui vont venir, donc vous voyez, pour 3 concerts, donc ça fait plus de 10 musiciens par concert, c'est absolument énorme, et on avait vraiment envie de créer un peu une atmosphère conviviale et de se réunir avec un maximum de gens et de retrouver un peu de vie normale et de fraîcheur d'avant Covid.
Donc quelque part, on doit ce festival un petit peu au Covid, puisque... À vous entendre, j'ai l'impression que c'était vraiment une nécessité de créer quelque chose pour à nouveau faire de la musique, se réunir.
On peut le dire, effectivement.
Et vous-même, Daryl Bachmann, vous êtes altiste, vous êtes musicien de concert. Quel est votre parcours? Est-ce que comme vous êtes encore très jeune, vous êtes encore en études, j'imagine?
Voilà, donc j'ai fait un bachelor à la Haute École de Musique de Lausanne. Et maintenant, j'étudie déjà depuis 3 ans dans la classe du très renommé Lawrence Power, donc, qui est la plus grande... figure altistique du moment, et j'ai la chance de pouvoir travailler à ses côtés, de me perfectionner, et j'effectue actuellement un master de pédagogie à Zurich, voilà.
Mais avant même tout ça, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'alto?
Ah bah l'alto, vous savez, je suis allé aux portes ouvertes du conservatoire et je suis tombé sur Laurent Rochat, qui est d'ailleurs toujours mon ami aujourd'hui. Et il avait une longue queue de cheval, des tatouages sur les bras. Et j'ai tout de suite senti qu'en plus d'être un bon professeur d'alto, ça allait être une sorte de grand frère. Et je dois dire j'avais 6 ans, hein, mais je dois dire que c'est surtout ça qui m'a motivé à commencer par l'alto.
On peut même dire un très grand frère, hein, parce que vous-même, Daryl, vous êtes assez grand en taille, mais je crois que
Laurent Rochat
vous surpasse encore d'une tête.
Bah oui.
Nos salutations à Laurent Rochat, qui était notre invité il y a quelques mois dans cette émission, et qui, je le rappelle, n'est pas seulement altiste, mais aussi officiellement moine taoïste. Est-ce que vous aussi, Daryl Bachmann, vous menez une double vie comme ça, comme Laurent Rochat?
Ah bah non, moi je suis très monothématique, c'est-à-dire je travaille mon alto le plus possible. J'essaye d'organiser des concerts à droite à gauche, mais je n'ai pas d'autres activités particulières à côté.
Ça viendra peut-être.
Eh oui.
Alors, on va vous laisser le temps d'y réfléchir en écoutant un des extraits que vous avez choisi. Il s'agit du deuxième mouvement, Andante ma moderato, du Sextuor opus 18 de Johannes Brahms, interprété par Isaac Stern, Alexander Schneider, Milton Thomas, Pablo Casals et Madeleine Follet. On écoute ce mouvement du Sextuor de Brahms.
Thank you. Thank you.
C'était le deuxième mouvement, Andante ma moderato, du Sextuor opus 18 de Johannes Brahms, interprété par Isaac Stern, Alexander Schneider, Milton Thomas, Pablo Casals et Madeleine Follet. Un extrait choisi par l'altiste et organisateur de festival désormais, Daryl Bachmann, notre invité d'aujourd'hui, qui vient pour nous parler des Schubertiades de Tonnet qui auront lieu du 11 au 13 juin à l'espace culturel du Bois des Arts. Alors, vous êtes très jeune, hein, vous organisez déjà un festival, vous avez invité des musiciens plutôt jeunes aussi, comme vous, mais pourtant on sait que la musique classique attire peut-être un public un peu plus mûr, peut-être pas forcément la génération la plus jeune et qui serait la plus représentée dans les concerts. Est-ce qu'il y a une dynamique intergénérationnelle dans ce projet? Et voilà, je rappelle aux auditeurs que l'intergénérationnel, c'est un peu le fil conducteur de cette émission, et c'est pour ça que j'en profite pour vous demander.
Ah, pour moi, la musique, j'aimerais tout d'abord dire qu'elle n'a pas d'âge. On peut apprécier du Brahms ou du Schubert ou du Saint-Saëns à n'importe quel âge. Ça dépend tout de nos sensibilités, évidemment. Moi, je pense qu'on a vraiment essayé, donc avec ce concert enfant, donc, de jouer un petit rôle pédagogique. Si ne serait-ce qu'un seul enfant dans l'assistance écoute le signe de Saint-Saëns pendant le spectacle, se dit qu'il aimerait devenir violoncelliste ou même juste faire un peu de violoncelle et que ses parents l'inscrivent au conservatoire, je pense que la partie est déjà gagnée, ne serait-ce que pour cela.
Et vous parlez du concert du samedi 12 juin avec voilà. Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, qui est une œuvre absolument extrêmement accessible et surtout assez pédagogique finalement.
Ben oui, c'est exactement l'idée.
Est-ce que Camille Saint-Saëns dans cette œuvre a mis un peu un instrument un peu en valeur dans chacun des mouvements qui ont le titre à chaque fois d'un animal différent?
Voilà, par exemple, l'éléphant est interprété par une mélodie à la est interprétée par la contrebasse, la flûte joue le rôle des oiseaux dans la volière, par exemple le violoncelle joue donc le très fameux cygne, et donc c'est assez intéressant. Je pense que les enfants, en plus de voir un instrument, verront que l'instrument peut vraiment prendre la place d'un animal, et ça pourra peut-être leur ouvrir un peu plus, ça pourrait peut-être leur ouvrir un peu l'esprit et leur donner des idées, voilà.
Et quel animal a eu l'honneur de représenter l'alto, votre instrument?
Ah, bonne question. L'alto, bah écoutez, je vous laisse venir et vous pourrez le découvrir par vous-même.
Est-ce qu'il y a un animal pour les pianistes aussi?
Ah bah François-Xavier Poisat, bah le piano interprète donc les pianistes, voilà.
Les pianistes
ne sont pas tous des animaux,
d'accord.
Mais dans, voilà.
Sont-ils quand même des mammifères?
Eh oui,
sacrés animaux, ces pianistes. Hein.
Se déplaçant sur deux pattes, et voilà.
Voilà, deux pattes et 10 doigts.
Voilà, exactement.
Bien, on parle d'intergénérationnalité, donc l'intergénérationnalité, c'est aussi la temporalité, et la temporalité, ben, en ce moment, c'est beaucoup la crise du Covid. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la musique classique en sortie de crise? Qu'est-ce que vous espérez, vous qui êtes si jeune, qui êtes en début de carrière et qui fête quand même des choses en plein Covid, qui lançait un festival en plein Covid?
Ah bah moi je pense que ça va sûrement prendre des années, voire peut-être 10 ans pour retourner à une situation qui était celle d'avant le Covid, mais pour moi c'est important de prendre ça avec philosophie, de se concentrer sur des projets qui ont lieu autour de chez nous, d'aller jouer dans les écoles pour les enfants de notre canton de Genève. C'est aussi voilà, donc se donner à fond, mais en prenant la chose avec philosophie et sans trop penser à ce qui va se passer dans 6 mois, une année, parce qu'en fait personne ne le sait. Et voilà,
comme vous dites, se lancer dans des projets autour de chez nous. Vous lancez un festival à Tonnet, je crois que c'est la commune où vous avez grandi.
Et oui, c'est ma commune d'enfance.
Donc le Covid, on peut dire, c'est un retour à la localité, peut-être,
et
y compris
oui,
pour la musique classique.
C'est exactement ce que je voulais dire, et je pense que les musiciens et les organisateurs doivent le plus possible proposer à des musiciens locaux. On peut faire 3 heures, 4 heures de train, mais si vous voulez, je pense qu'on peut plus se permettre maintenant d'inviter quelqu'un qui viendrait de l'autre bout du monde jouer une soirée et ensuite qui retourne chez lui. C'est plus possible, et aussi d'un point de vue environnemental, ce n'est pas raisonnable du tout.
Et vous pensez, vous espérez peut-être que ce retour à la localité n'est pas seulement temporaire en attendant une sortie totale de la crise pour revenir dans un monde comme c'était comme avant, comme vous avez dit, ou bien alors peut-être que c'est un peu le nouveau visage de la culture, de la musique classique et que ça va se développer dans ce sens-là.
En tout cas, je pense qu'il y a une dimension qui est très saine là derrière, et c'est celle qui me paraît la plus naturelle, et pour moi, c'est un peu la voie à suivre, et voilà.
Et c'était peut-être aussi la voie que suivait Schubert avec ses Schubertiades il y a 200 ans à Vienne quand ils faisaient leur petite jam session.
Voilà, exactement.
Et peut-être que bientôt on pourra à nouveau, comme vous avez dit, fumer un cigare et boire du whisky dans un concert de musique classique.
Voilà, sur des canapés, tard le soir, et ce sera formidable.
Eh bien, on se réjouit de voir tout ça, peut-être hein, dans une prochaine édition du festival Les Schubertiades de Tonnerre. En tout cas, la première, on vous invite à aller voir comment ce sera. Ce sera du 11 au 13 juin à l'espace culturel du Bois des Arts. Avant de nous quitter, Daryl Bachman, vous n'échapperez pas à la question qui tue. Alors, vous le savez, il y a des blagues sur les Belges. Il y a des blagues sur les blondes. Pourquoi est-ce que dans le monde de la musique classique, il y a des blagues sur les altistes?
Ah, bah, il y a toute une série de blagues sur les altistes pour la simple et bonne raison que maintenant ce n'est plus le cas, car les altistes ont atteint un très haut niveau et que on peut comparer la technique d'un altiste à celle d'un violoniste. Mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, les altistes étaient dans 90%, voire 95% des cas, des violonistes ratés, je pense qu'il faut le dire. Donc des violonistes qui n'avaient pas vraiment les compétences pour faire une carrière de violoniste, et donc qui se rabattaient sur l'alto. Et je pense que cette dynamique a créé une sorte de vague de blagues. Mais aujourd'hui, plus aucune blague n'est permise, et ça fait quelques années, j'entends de moins en moins de blagues sur les altistes. Et je pense qu'on se dirige vraiment vers quelque chose de plus raisonnable à ce niveau-là.
Écoutez, si c'est plus permis, je ne vous propose pas de nous en
Bon,
raconter
alors exceptionnellement, je pense qu'on peut en faire une aujourd'hui.
Bon, ben, je vous en prie.
Ah.
Allez-y.
Bon, alors je vais faire une petite blague. Donc, c'est pas seulement sur les altistes, mais c'est aussi sur les violonistes. Alors, on a toujours l'impression que le violon est plus petit que l'alto, mais en réalité, c'est la tête du violoniste qui est bien plus grosse que la tête de l'altiste. Voilà.
Excellent, voilà. Bien, alors sur cette parole légère, quittons-nous sur un morceau assez léger aussi, hein, mais quand même un chef-d'œuvre. C'est l'ouverture sur des thèmes hébraïques de Prokofiev dans l'interprétation de Vladimir Ashkenazy au piano, Keith Puddy à la clarinette et avec le quatuor Gabrieli. On écoute ça tout de suite. Ce sera le dernier extrait de l'émission Entre les âges, présentée par François-Xavier Poisat avec notre invité Daryl Bachman, qui est venu altiste, jeune altiste, qui est venu nous présenter les Schubertiades de Tonnerre qui auront lieu du 11 au 13 juin. Merci aux auditeurs d'avoir été avec nous et merci à Olivier Steinmetz pour la production. À bientôt sur Radio Cité Genève.